Kant, Fondement de la métaphysique des mœurs, deuxième section, suite. Au contraire, la question de savoir comment l'impératif de la moralité est possible est sans doute la seule qui ait besoin d'une solution, puisque cet impératif n'est en rien hypothétique et qu'ainsi la nécessité objectivement représentée ne peut s'appuyer sur aucune supposition comme dans les impératifs hypothétiques. Seulement, il ne faut ici jamais perdre de vue que ce n'est par aucun exemple, que ce n'est point par suite empiriquement, qu'il y a lieu de décider s'il y a, en somme, quelque impératif de ce genre. Mais ce qui est à craindre, c'est que tous les impératifs qui paraissent catégoriques n'en soient pas moins de façon détournée, hypothétique. Si l'on dit, par exemple, « Tu ne dois pas faire de promesses trompeuses », et si l'on suppose que la nécessité de cette abstention ne soit pas comme un simple conseil qu'il faille suivre pour éviter quelque autre mal, un conseil qui reviendrait à peu près à dire « Tu ne dois pas faire une fausse promesse de peur de perdre ton crédit au cas où cela viendrait à être révélé. » Si plutôt une action de ce genre doit être considérée en elle-même comme mauvaise, et qu'ainsi l'impératif qui exprime la défense soit catégorique, on ne peut néanmoins prouver avec certitude, dans aucun exemple, que la volonté soit ici déterminée uniquement par la loi, sans autre mobile qu'elle, alors même qu'il semble en être ainsi. Car il est toujours possible que la crainte de l'opprobre, peut-être aussi une obscure appréhension d'autres dangers, ait sur la volonté une influence secrète. Comment prouver, par l'expérience, la non-réalité d'une cause, alors que l'expérience ne nous apprend rien au-delà de ceci, que cette cause, nous ne l'apercevons pas. Mais, dans ce cas, le prétendu impératif moral, qui comme tel paraît catégorique et inconditionné, ne serait en réalité qu'un précepte pragmatique qui attire notre attention sur notre intérêt et nous enseigne uniquement à le prendre en considération. Nous avons donc à examiner tout à fait a priori la possibilité d'un impératif catégorique, puisque nous n'avons pas ici l'avantage de trouver cet impératif réalisé dans l'expérience, de telle sorte que nous n'ayons à en examiner la possibilité que pour l'expliquer et non pour l'établir. En attendant, ce qu'il faut pour le moment remarquer, c'est que l'impératif catégorique seul a la valeur d'une loi pratique, tandis que les autres impératifs, ensemble, peuvent bien être appelés des principes, mais non des lois de la volonté. En effet, ce qui est simplement nécessaire à faire pour atteindre une fin à notre gré peut être considéré en soi comme contingent, et nous pourrions toujours être délié de la prescription en renonçant à la fin. Au contraire, le commandement inconditionné n'abandonne pas au bon plaisir de la volonté la faculté d'opter pour le contraire. Par suite, il est le seul à impliquer en lui cette nécessité que nous réclamons pour la loi. En second lieu, pour cet impératif catégorique ou cette loi de la moralité, la cause de la difficulté, qui est d'en saisir la possibilité, est aussi très considérable. Cet impératif est une proposition pratique synthétique a priori. Et puisqu'il y a tant de difficultés dans la connaissance théorique à comprendre la possibilité de propositions de ce genre, il est aisé de présumer que, dans la connaissance pratique, la difficulté ne sera pas moindre. Note de Kant. Je lis l'action à la volonté, sans présupposer de conditions tirées de quelque inclination. Je la lis a priori, par suite nécessairement, quoique ce ne soit qu'objectivement, c'est-à-dire sous l'idée d'une raison qui aurait plein pouvoir sur toutes les causes subjectives de détermination. C'est donc là une proposition pratique qui ne dérive pas analytiquement le fait de vouloir une action d'un autre vouloir déjà supposé, car nous n'avons pas de volonté si parfaite, mais qui le lie immédiatement au concept de la volonté d'un être raisonnable comme quelque chose qui n'y est pas contenu. Fin de la note. Pour résoudre cette question, nous allons d'abord chercher s'il ne serait pas possible que le simple concept d'un impératif catégorique en fournit ainsi la formule. Formule contenant la proposition qui seule peut être un impératif catégorique. Car la question de savoir comment un tel commandement absolu est possible, alors même que nous en connaissons le sens, exigera encore un effort particulier et difficile que nous réservons pour la dernière section de l'ouvrage. Quand je conçois un impératif hypothétique en général, je ne sais pas d'avance ce qu'il contiendra, jusqu'à ce que la condition me soit donnée. Mais c'est un impératif catégorique que je conçois, je sais aussitôt ce qu'il contient. Car, puisque l'impératif ne contient en dehors de la loi que la nécessité, pour la maxime, de se conformer à cette loi, et que la loi ne contient aucune condition à laquelle elle soit astreinte, il ne reste rien que l'universalité d'une loi en général à laquelle la maxime de l'action doit être conforme. Et c'est seulement cette conformité que l'impératif nous représente proprement comme nécessaire. Note de Kant. La maxime est le principe subjectif de l'action et doit être distingué du principe objectif, c'est-à-dire de la loi pratique. La maxime contient la règle pratique que la raison détermine selon les conditions du sujet, en bien des cas selon son ignorance ou encore selon ses inclinations. Et elle est ainsi le principe d'après lequel le sujet agit, tandis que la loi est le principe objectif valable pour tout être raisonnable, le principe d'après lequel il doit agir, c'est-à-dire un impératif. Fin de la note. Il n'y a donc qu'un impératif catégorique et c'est celui-ci. Agis uniquement d'après la maxime qui fait que tu peux vouloir en même temps qu'elle devienne une loi universelle. Or, si de ce seul impératif, tous les impératifs du devoir peuvent être dérivés comme de leurs principes, quoique nous laissions non résolue la question de savoir si ce qu'on appelle le devoir n'est pas en somme un concept vide, nous pourrons cependant tout au moins montrer ce que nous entendons par là et ce que ce concept veut dire. Puisque l'universalité de la loi, d'après laquelle des effets se produisent, constitue ce qu'on appelle proprement nature, dans le sens le plus général, quant à la forme, c'est-à-dire l'existence des objets en tant qu'elle est déterminée selon des lois universelles, l'impératif universel du devoir pourrait encore être énoncé en ces termes. Agis comme si la maxime de ton action devait être érigée par ta volonté en loi universelle de la nature. Nous allons maintenant énumérer quelques devoirs d'après la division ordinaire des devoirs en devoir envers nous-mêmes et devoir envers les autres hommes, en devoir parfait et en devoirs imparfaits. Note de Kant. On doit remarquer ici que je me réserve entièrement de traiter de la division des devoirs dans une métaphysique des mœurs qui paraîtra plus tard, et que cette division ne se trouve ici par conséquent que comme une division commode pour classer mes exemples. Au reste, j'entends ici par devoir parfait celui qui n'admet aucune exception en faveur de l'inclination, et ainsi je reconnais non seulement des devoirs parfaits extérieurs, mais encore des devoirs parfaits intérieurs, ce qui est en contradiction avec l'usage du mot reçu dans les écoles. Mais je n'ai pas l'intention de justifier ici cette conception, car qu'on me l'accorde ou non, peu importe à mon dessein. Fin de la note. 1. Un homme, à la suite d'une série de mots qui ont fini par le réduire au désespoir, ressent du dégoût pour la vie, tout en restant assez maître de sa raison pour pouvoir se demander à lui-même si ce ne serait pas une violation du devoir envers soi que d'attenter à ses jours. Ce qu'il cherche alors, c'est si la maxime de son action peut bien devenir une loi universelle de la nature. Mais voici sa maxime. Par amour de moi-même, je pose en principe d'abréger ma vie si, en la prolongeant, j'ai plus de maux à en craindre que de satisfaction à en espérer. La question est donc seulement de savoir si ce principe de l'amour de soi peut devenir une loi universelle de la nature. Mais alors, on voit bientôt qu'une nature dont ce serait la loi de détruire la vie même, juste par le sentiment dont la fonction spéciale est de pousser au développement de la vie, serait en contradiction avec elle-même. Et ainsi, ne subsisterait pas comme nature. Que cette maxime ne peut donc en aucune façon occuper la place d'une loi universelle de la nature et qu'elle est en conséquence contraire au principe suprême de tout devoir. 2. Un autre se voit poussé par le besoin à emprunter de l'argent. Il sait bien qu'il ne pourra pas le rendre, mais il voit bien aussi qu'on ne lui prêtera rien s'il ne s'engage ferme à s'acquitter à une époque déterminée. Il a envie de faire cette promesse, mais il a aussi assez de conscience pour se demander : n'est-il pas défendu ? N'est-il pas contraire au devoir de se tirer d'affaire par un tel moyen ? Supposez qu'il prenne cependant ce parti. La maxime de son action signifierait ceci : quand je crois être à court d'argent, j'en emprunte et je promets de rendre, bien que je sache que je n'en ferai rien. Or, il est fort possible que ce principe de l'amour de soi ou de l'utilité personnelle se concilie avec tout mon bien-être à venir. Mais pour l'instant, la question est de savoir s'il est juste. Je convertis donc l'exigence de l'amour de soi en une loi universelle, et j'institue la question suivante. Qu'arriverait-il si ma maxime devenait une loi universelle ? Or, je vois là aussitôt qu'elle ne pourrait jamais valoir comme loi universelle de la nature et s'accorder avec elle-même, mais qu'elle devrait nécessairement se contredire. Car, admettre comme une loi universelle que tout homme qui croit être dans le besoin puisse promettre ce qui lui vient à l'idée, avec l'intention de ne pas tenir sa promesse. Ce serait même rendre impossible le fait de promettre avec le but qu'on peut se proposer par là, étant donné que personne ne croirait à ce qu'on lui promet et que tout le monde rirait de pareilles démonstrations, comme de vaines feintes. 3. Un troisième trouve en lui un talent qui, grâce à quelque culture, pourrait faire de lui un homme utile à bien des égards. Mais il se voit dans une situation aisée et il aime mieux se laisser aller au plaisir que s'efforcer d'étendre et de perfectionner ses heureuses dispositions naturelles. Cependant, il se demande encore si sa maxime de négliger ses dons naturels, qui, en elle-même, s'accorde avec son penchant à la jouissance, s'accorde aussi bien avec ce que l'on appelle le devoir. Or, il voit bien que sans doute, une nature, selon cette loi universelle, pourrait toujours encore subsister, alors même que l'homme, comme l'insulaire de la mer du Sud, laisserait rouiller son talent et ne songerait qu'à tourner sa vie vers l'oisiveté, le plaisir, la propagation de l'espèce, en un mot, vers la jouissance. Mais il ne peut absolument pas vouloir que cela devienne une loi universelle de la nature, ou que cela soit implanté comme tel en nous par un instinct naturel. Car, en tant qu'être raisonnable, il veut nécessairement que toutes les facultés soient développées en lui parce qu'elles lui sont utiles et qu'elles lui sont données pour toutes sortes de fins possibles. 4. Enfin, un quatrième, à qui tout va bien, voyant d'autres hommes, à qui il pourrait bien porter secours, aux prises avec de grandes difficultés, raisonne ainsi. Que m'importe, que chacun soit aussi heureux qu'il plaît au ciel, ou que lui-même peut l'être de son fait. Je ne lui déroberai pas la moindre part de ce qu'il a. Je ne lui porterai pas même envie. Seulement, je ne me sens pas le goût de contribuer en quoi que ce soit à son bien-être ou d'aller l'assister dans le besoin. Or, si cette manière de voir devenait une loi universelle de la nature, l'espèce humaine pourrait sans doute fort bien subsister, et assurément dans de meilleures conditions que lorsque chacun a sans cesse à la bouche les mots de sympathie et de bienveillance, et met de l'empressement à pratiquer ses vertus à l'occasion, mais en revanche trompe dès qu'il le peut, trafic du droit des hommes ou y porte atteinte à d'autres égards. Mais, bien qu'il soit parfaitement possible qu'une loi universelle de la nature conforme à cette maxime subsiste, il est cependant impossible de vouloir qu'un tel principe vaille universellement comme loi de la nature. Car une volonté qui prendrait ce parti se contredirait elle-même. Il peut en effet survenir, malgré tout, bien des cas où cet homme ait besoin de l'amour et de la sympathie des autres, et où il serait privé lui-même de tout espoir d'obtenir l'assistance qu'il désire par cette loi de la nature issue de sa volonté propre. Ce sont là quelques-uns des nombreux devoirs réels, ou du moins tenus par nous pour tels, dont la déduction, à partir du principe unique que nous avons énoncé, tombe clairement sous les yeux. Il faut que nous puissions vouloir que ce qui est une maxime de notre action devienne une loi universelle. C'est là le canon qui permet l'appréciation morale de notre action en général. Il y a des actions dont la nature est telle que leur maxime ne peut même pas être conçue sans contradiction comme une loi universelle de la nature, bien loin qu'on puisse poser par la volonté qu'elle devrait le devenir. Il y en a d'autres, dans lesquelles on ne trouve pas sans doute cette impossibilité interne, mais telle cependant qu'il est impossible de vouloir que leur maxime soit élevée à l'universalité d'une loi de la nature, parce qu'une telle volonté se contradirait elle-même. On voit aisément que la maxime des premières est contraire au devoir strict ou étroit, rigoureux, tandis que la maxime des secondes n'est contraire qu'au devoir large, méritoire, et qu'ainsi, tous les devoirs, en ce qui concerne le genre d'obligation qu'ils imposent, non l'objet de l'action qu'ils déterminent, apparaissent pleinement par ces exemples dans leur dépendance à l'égard du même unique principe. Si maintenant, nous faisons attention à nous-mêmes, dans tous les cas où nous violons un devoir, nous trouvons que nous ne voulons pas réellement que notre maxime devienne une loi universelle, car cela nous est impossible. C'est bien plutôt la maxime opposée qui doit rester universellement une loi. Seulement, nous prenons la liberté d'y faire une exception pour nous, ou seulement pour cette fois en faveur de notre inclination. En conséquence, si nous considérions tout d'un seul et même point de vue, à savoir du point de vue de la raison, nous trouverions une contradiction dans notre volonté propre, en ce sens que nous voulons qu'un certain principe soit nécessaire objectivement comme loi universelle, et que néanmoins il n'est pas une valeur universelle subjectivement et qu'il souffre des exceptions. Mais comme nous considérons à un moment notre action du point de vue d'une volonté pleinement conforme à la raison, et ensuite aussi cette même action du point de vue d'une volonté affectée par l'inclination, il n'y a ici réellement pas de contradiction, mais bien une résistance de l'inclination aux prescriptions de la raison. Antagonismus. Ce qui fait que l'universalité du principe, universalitas, est convertie en une simple généralité, generalitas, et que le principe pratique de la raison doit se rencontrer avec la maxime à moitié chemin. Or, bien que ce compromis ne puisse être justifié dans notre propre jugement, quand celui-ci est impartialement rendu, il montre cependant que nous reconnaissons réellement la validité de l'impératif catégorique et que, avec un entier respect pour lui, nous nous permettons quelques exceptions sans importance à ce qu'il nous semble et pour lesquelles nous subissons une contrainte. Ainsi, nous avons réussi au moins à prouver que le devoir est un concept qui doit avoir un sens et contenir une législation réelle pour nos actions. Cette législation ne peut être exprimée que dans des impératifs catégoriques, nullement dans des impératifs hypothétiques. En même temps, nous avons, ce qui est déjà beaucoup, exposé clairement et en une formule qui le détermine pour toute application, le contenu de l'impératif catégorique qui doit renfermer le principe de tous les devoirs, s'il y a des devoirs en général. Mais nous ne sommes pas encore parvenus à démontrer a priori qu'un tel impératif existe réellement, qu'il y ait une loi pratique qui commande absolument par soi sans aucun mobile, et que l'obéissance à cette loi soit le devoir. Quand on se propose de mener à bien une telle entreprise, il est de la plus haute importance de se tenir ceci pour dit. C'est qu'il ne faut pas du tout se mettre en tête de vouloir dériver la réalité de ce principe de la constitution particulière de la nature humaine. Car le devoir doit être une nécessité pratique inconditionnée de l'action. Il doit donc valoir pour tous les êtres raisonnables, les seuls auxquels peut s'appliquer absolument un impératif. Et c'est seulement à ce titre qu'il est aussi une loi pour toute volonté humaine. Au contraire, ce qui est dérivé de la disposition naturelle propre de l'humanité, ce qui est dérivé de certains sentiments et de certains penchants, et même si c'est possible, d'une direction particulière qui serait propre à la raison humaine, et ne devrait pas nécessairement valoir pour la volonté de tout être raisonnable, tout cela peut bien nous fournir une maxime à notre usage, mais non une loi, un principe subjectif selon lequel nous pouvons agir par penchant et inclination, non un principe objectif par lequel nous aurions l'ordre d'agir, alors même que tous nos penchants, nos inclinations et les dispositions de notre nature y seraient contraires. Cela est si vrai que la sublimité et la dignité intrinsèque du commandement exprimé dans un devoir apparaissent d'autant plus qu'ils trouvent moins de secours et même plus de résistance dans les causes subjectives, sans que cette circonstance affaiblisse le moins du monde la contrainte qu'impose la loi ou enlève quelque chose à sa validité. Or, nous voyons ici la philosophie placée dans une situation critique. Il faut qu'elle trouve une position ferme, sans avoir, ni dans le ciel, ni sur la terre, de point d'attache ou de point d'appui. Il faut que la philosophie manifeste ici sa pureté en se faisant la gardienne de ses propres lois, au lieu d'être le héros de celles que lui suggère un sens inné ou je ne sais quelle nature tutélaire. Celles-ci, dans leur ensemble, valent sans doute mieux que rien. Elles ne peuvent cependant jamais fournir des principes comme ceux que dicte la raison, et qui doivent avoir une origine pleinement et entièrement a priori, et tirer en même temps de là leur autorité impérative, n'attendant rien de l'inclination de l'homme, attendant tout de la suprématie de la loi et du respect qui lui est dû, ou, dans le cas contraire, condamnant l'homme à se mépriser et à s'inspirer de l'horreur au-dedans de lui-même. Donc, tout élément empirique, non seulement est impropre à servir d'auxiliaire au principe de la moralité, mais est encore au plus haut degré préjudiciable à la pureté des mœurs. En cette matière, la valeur propre, incomparablement supérieure à tout, d'une volonté absolument bonne, consiste précisément en ceci, que le principe de l'action est indépendant de toutes les influences exercées par des principes contingents, les seuls que l'expérience peut fournir. Contre cette faiblesse, ou même cette basse manière de voir, qui fait qu'on cherche le principe moral parmi des mobiles et des lois empiriques, on ne saurait trop faire entendre d'avertissement, ni trop souvent. Car la raison, dans sa lassitude, se repose volontiers sur cet oreiller. Et, bercée dans son rêve par de douces illusions, qui ne lui font cependant embrasser au lieu de Junon qu'un nuage, elle substitue à la moralité un monstre bâtard formé de l'ajustement artificiel de membres d'origines diverses qui ressemble à tout ce qu'on veut y voir, sauf cependant à la vertu, pour celui qui l'a une fois envisagé dans sa véritable forme. Note de Kant. Envisager la vertu dans sa véritable forme ce n'est pas autre chose qu'exposer la moralité dégagée de tout mélange d'éléments sensibles et dépouillée de tout faux ornement que lui prête l'attrait de la récompense ou l'amour de soi. Combien alors elle obscurcit tout ce qui paraît séduisant aux inclinations. C'est ce que chacun peut aisément apercevoir avec le plus léger effort de sa raison, pourvu qu'elle ne soit pas tout à fait corrompue pour toute abstraction. Fin de la note. La question est donc celle-ci. Est-ce une loi nécessaire pour tous les êtres raisonnables que de juger toujours leurs actions d'après des maximes telles qu'ils puissent vouloir eux-mêmes qu'elles servent de lois universelles? Si cette loi est telle, elle doit être liée, tout à fait a priori, au concept de la volonté d'un être raisonnable en général. Mais pour découvrir cette connexion, il faut, si fort qu'on y répugne, faire un pas en avant, je veux dire vers la métaphysique, bien que ce soit dans un de ces domaines qui est distinct de la philosophie spéculative, à savoir dans la métaphysique des mœurs. Dans une philosophie pratique, où il s'agit de poser, non pas des principes de ce qui arrive, mais des lois de ce qui doit arriver. Quand même, cela n'arriverait jamais, c'est-à-dire des lois objectives pratiques. Nous n'avons pas par là même à instituer de recherches sur les raisons qui font qu'une chose plaît ou déplaît, sur les caractères par lesquels le plaisir de la simple sensation se distingue du goût, et sur la question de savoir si le goût se distingue d'une satisfaction universelle de la raison, à nous demander sur quoi repose le sentiment du plaisir et de la peine, comment, de ce sentiment, naissent les désirs et les inclinations, comment, des désirs et des inclinations, naissent, par la coopération de la raison, des maximes. Car tout cela fait partie d'une doctrine empirique de l'âme, qui devrait constituer la seconde partie d'une doctrine de la nature, si l'on considère celle-ci comme philosophie de la nature, en tant qu'elle est fondée sur des lois empiriques. Mais ici, il s'agit de la loi pratique objective, par suite du rapport d'une volonté à elle-même, en tant qu'elle se détermine uniquement par la raison. Dans ce cas, en effet, tout ce qui a rapport à ce qui est empirique se supprime de lui-même. Parce que si la raison par elle seule détermine la conduite, et c'est précisément ce dont nous avons à présent à rechercher la possibilité, il faut qu'elle le fasse nécessairement a priori. La volonté est conçue comme une faculté de se déterminer soi-même à agir conformément à la représentation de certaines lois. Et une telle faculté ne peut se rencontrer que dans des êtres raisonnables. Or, ce qui sert à la volonté de principe objectif pour se déterminer elle-même, c'est la fin. Et si celle-ci est donnée par la seule raison, elle doit valoir également pour tous les êtres raisonnables. Ce qui, au contraire, contient simplement le principe de la possibilité de l'action, dont l'effet et la fin s'appellent le moyen. Le principe subjectif du désir est le mobile. Le principe objectif du vouloir est le motif. De là, la différence entre des fins objectives qui tiennent à des motifs valables pour tout être raisonnable. Des principes pratiques sont formels quand ils font abstraction de toutes les fins subjectives. Ils sont matériels, au contraire, quand ils supposent des fins de ce genre. Les fins qu'un être raisonnable se propose à son gré comme effet de son action, les fins matérielles, ne sont toutes que relatives, car ce n'est simplement que leur rapport à la nature particulière de la faculté de désirer du sujet qui leur donne la valeur qu'elles ont, laquelle, par suite, ne peut fournir des principes universels pour tous les êtres raisonnables, non plus que des principes nécessaires et valables pour chaque volition, c'est-à-dire de lois pratiques. Voilà pourquoi toutes ces fins relatives ne fondent que des impératifs hypothétiques. Mais supposez qu'il y ait quelque chose dont l'existence en soi-même est une valeur absolue, quelque chose qui, comme fin en soi, pourrait être un principe de loi déterminée. C'est alors en cela seulement que se trouverait le principe d'un impératif catégorique possible, c'est-à-dire d'une loi pratique. Or, je dis, l'homme, et en général tout être raisonnable, existe comme fin en soi, et non pas simplement comme moyen dont telle ou telle volonté puisse user à son gré, dans toutes ses actions, aussi bien dans celles qui le concernent lui-même que dans celles qui concernent d'autres êtres raisonnables. Il doit toujours être considéré en même temps comme une fin. Tous les objets des inclinations n'ont qu'une valeur conditionnelle, car si les inclinations et les besoins qui en dérivent n'existaient pas, leur objet serait sans valeur. Mais les inclinations mêmes, comme source du besoin, ont si peu une valeur absolue qui leur donne le droit d'être désirées pour elles-mêmes, que bien plutôt en être pleinement affranchies doit être le souhait universel de tout être raisonnable. Ainsi, la valeur de tous les objets à acquérir par notre action est toujours constitutionnelle. Les êtres, dont l'existence dépend, à vrai dire, non pas de notre volonté mais de la nature, n'ont cependant, quand ce sont des êtres dépourvus d'eux, des moyens. Et voilà pourquoi on les nomme des choses. Au contraire, les êtres raisonnables sont appelés des personnes parce que leur nature les désigne déjà comme des fins en soi, c'est-à-dire comme quelque chose qui ne peut pas être employé simplement comme moyen, quelque chose qui, par suite, limite d'autant toute faculté d'agir comme bon nous semble et qui est un objet de respect. Ce ne sont donc pas là des fins simplement subjectives, dont l'existence, comme effet de notre action, a une valeur pour nous. Ce sont des fins objectives, c'est-à-dire des choses dont l'existence est une fin soi-même, et même une fin telle qu'elle ne peut être remplacée par aucune autre, au service de laquelle les fins objectives devrait se mettre simplement comme moyen. Sans cela, en effet, on ne pourrait trouver jamais rien qui eût une valeur absolue. Mais si toute valeur était conditionnelle et par suite contingente, il serait complètement impossible de trouver pour la raison un principe pratique suprême. Si donc, il doit y avoir un principe pratique suprême, et au regard de la volonté humaine, un impératif catégorique. Il faut qu'il soit tel que par la représentation de ce qui, étant une fin en soi, est nécessairement une fin pour tout homme, il constitue un objectif de la volonté, et que par conséquent, il puisse servir de loi pratique universelle. Voici le fondement de ce principe. La nature raisonnable existe comme fin en soi. L'homme se représente nécessairement ainsi sa propre existence. C'est donc en ce sens un principe subjectif d'action humaine. Mais tout autre être raisonnable se présente également ainsi son existence, en conséquence du même principe rationnel qui vaut aussi pour moi. C'est donc en même temps un principe objectif dont doivent pouvoir être déduites, comme d'un principe pratique suprême, toutes les lois de la volonté. L'impératif pratique sera donc celui-ci. Agis de telle sorte que tu traites l'humanité aussi bien dans la personne de tout autre, toujours en même temps comme une fin et jamais simplement comme un moyen. Note de Kant. Cette proposition, je l'avance ici comme postulat. On en trouvera les raisons dans la dernière section. Fin de la note. Restons-en aux exemples précédents. En premier lieu, selon le concept du devoir nécessaire envers soi-même, celui qui médite le suicide se demandera si son action peut s'accorder avec l'idée de l'humanité comme fin en soi. Si, pour échapper à une situation pénible, il se détruit lui-même, il se sert d'une personne uniquement comme d'un moyen destiné à maintenir une situation supportable jusqu'à là de la vie. Mais l'homme n'est pas une chose. Il n'est pas par conséquent un objet qui puisse être traité simplement comme un moyen. Mais il doit dans toutes ses actions être toujours considéré comme une fin en soi. Ainsi, je ne puis disposer en rien de l'homme en ma personne, soit pour le mutiler, soit pour l'endommager, soit pour le tuer. Il faut que je néglige ici de déterminer de plus près ce principe, comme il le faudrait pour éviter toute méprise, dans le cas où, par exemple, il s'agit de me laisser amputer les membres pour me sauver, de risquer ma vie pour la conserver. Cette détermination appartient à la morale proprement dite. En second lieu, pour ce qui est du devoir nécessaire ou devoir strict envers les autres, celui qui a l'intention de faire à autrui une fausse promesse apercevra aussitôt qu'il veut se servir d'un autre homme simplement comme d'un moyen, sans que ce dernier contienne en même temps la fin en lui-même. Car celui que je veux par cette promesse faire servir à mes desseins ne peut absolument pas adhérer à ma façon d'en user envers lui et contenir ainsi lui-même la fin de cette action. Cette violation du principe de l'humanité dans d'autres hommes tombe plus évidemment sous les yeux quand on tire les exemples d'atteintes portées à la liberté ou à la propriété d'autrui. Car là, il apparaît clairement que celui qui viole les droits des hommes a l'intention de se servir de la personne des autres simplement comme d'un moyen, sans considérer que les autres, en qualité d'être raisonnables, doivent toujours être estimés en même temps comme des fins, c'est-à-dire uniquement comme des êtres qui doivent pouvoir contenir aussi en eux la fin de cette même action. Note de Kant. Qu'on n'aille pas croire qu'ici, la formule triviale « quod tibi non vis fieri, etc. » puisse servir de règle ou de principe, car elle est uniquement déduite du principe que nous avons posé. Et encore avec diverses restrictions, elle ne peut être une loi universelle, car elle ne contient pas le principe des devoirs envers soi-même, ni celui des devoirs de charité envers autrui. Il y a bien des gens, en effet, pour consentir volontiers à ce qu'autrui ne soit pas obligé de leur bien faire, pourvu qu'il puisse être dispensé de bien faire à autrui. Ni enfin, celui des devoirs stricts des hommes les uns envers les autres, car le criminel pourrait, d'après ce principe, argumenter contre le juge qui le punit, etc. Fin de la note. En troisième lieu, pour ce qui est du devoir contingent, méritoire, envers soi-même, ce n'est pas assez que l'action ne contredise pas l'humanité dans notre personne, comme fin en soi. Il faut encore qu'elle soit en accord avec elle. Or, il y a dans l'humanité des dispositions à une perfection plus grande qui font partie de la nature à l'égard de l'humanité dans le sujet que nous sommes. Négliger ces dispositions, cela pourrait bien, à la rigueur, être compatible avec la conservation de l'humanité comme fin en soi, mais non avec l'accomplissement de cette fin. En quatrième lieu, au sujet du devoir méritoire envers autrui, la fin naturelle qu'ont tous les hommes, c'est leur bonheur propre. Or, à coup sûr, l'humanité pourrait subsister si personne ne contribuait en rien au bonheur d'autrui, tout en s'abstenant d'y porter atteinte de propos délibérés. Mais ce ne serait là cependant qu'un accord négatif, non positif, avec l'humanité comme fin en soi, si chacun ne tâchait pas aussi de favoriser autant qu'il est en lui les fins des autres. Car le sujet étant une fin en soi, il faut que ces fins, pour que cette représentation produise chez moi tout son effet, soient aussi autant que possible mes fins. Ce principe d'après lequel l'humanité et toute nature raisonnable en général sont considérées comme fin en soi, condition suprême qui limite la liberté des actions de tout homme, n'est pas emprunté à l'expérience, d'abord à cause de son universalité, puisqu'il s'étend à tous les êtres raisonnables en général, sur quoi aucune expérience ne suffit à rien déterminer. Ensuite, parce qu'en principe, l'humanité est représentée non comme une fin des hommes, subjective, c'est-à-dire comme un objet dont on se fait en réalité une fin de son propre gré, mais comme une fin objective, qui doit, quelles que soient les fins que nous nous proposions, constituer en qualité de loi la condition suprême restrictive de toutes les fins subjectives. Et parce qu'ainsi, ce principe dérive nécessairement de la raison pure. C'est que le principe de toute législation pratique réside objectivement dans la règle et dans la forme de l'universalité qui la rend capable, d'après le premier principe, d'être une loi, qu'on peut dire à la rigueur une loi de la nature. Tandis que, subjectivement, c'est dans la fin qu'il réside. Or, le sujet de toutes les fins, c'est tout être raisonnable, comme fin en soi, d'après le second principe. De là résulte maintenant le troisième principe pratique de la volonté, comme condition suprême de son accord avec la raison pratique universelle, à savoir l'idée de la volonté de tout être raisonnable, conçue comme volonté instituant une législation universelle. Selon ce principe, on rejettera toutes les maximes qui ne peuvent s'accorder avec la législation universelle propre de la volonté. La volonté n'est donc pas simplement soumise à la loi, mais elle y est soumise de telle sorte qu'elle doit être regardée également comme instituant elle-même la loi. Et comme n'y étant avant tout soumise, elle peut s'en considérer elle-même comme l'auteur, que pour cette raison.